Voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être là encore ce matin, de pouvoir vous partager la parole parce que c'est un thème qui m'est cher aujourd'hui que l'on va partager. On va sortir un peu de notre thème que nous avons commencé depuis le début de l'année, qui était sur l'écoute de Dieu, sur l'obéissance. Vous allez voir que le thème que nous abordons est quand même relié à cela. Et on va parler du réveil. On va parler du réveil, on va voir ce que ça veut dire être renouvelé, avoir, vivre en renouveau dans notre vie, voir si le réveil peut encore exister aujourd'hui, si Dieu est en train encore de visiter encore d'une manière particulière des endroits, des lieux, des personnes pour pouvoir être changé, transformé par l'action du Seigneur. Alors le thème c'est « Seigneur, amène le réveil dans mon cœur ». Comme on l'a prié, « Seigneur, change mon cœur, fais que je puisse t'écouter, fais que je puisse ensuite obéir à ce que tu veux de me dire, fais que je puisse aussi influencer les gens autour de moi pour que je puisse aussi les encourager à te suivre, à mettre ta parole en premier, ta vérité en premier. On va regarder justement deux événements qui sont passés dernièrement. J'espère que vous lisez un peu les nouvelles chrétiennes, je ne sais pas si vous avez entendu parler du réveil qui s'est passé à Asbury. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de cela? Ah ouais, Kentucky? Ok, donc vous donner un peu quelques nouvelles. Donc c'est une université chrétienne d'Asbury, dans le Kentucky, à Villemort. C'est une université qui est affiliée à la doctrine plus wesselienne, méthodiste, sainteté, donc qui a un rapport un peu avec nos croyances aussi en tant qu'église méthodiste. Ça s'est passé du 8 au 24 février de cette année. C'est une grosse université et les étudiants sont comme un peu obligés, au moins une fois par semaine, d'aller dans le service du mercredi, en culte dans la chapelle le mercredi matin, pour justement écouter et chanter Dieu, donc comme un culte qu'ils faisaient. Donc, vous connaissez, ce sont tous des jeunes de la génération Z et comme ça. Et cette université a déjà vécu des réveils dans le passé. Comme je le marque aussi sur le PowerPoint, en 1905, 1908, 21, 50, 58, 70, 92 et 2006. Donc on voit que cette université a déjà connu des renouveaux, des choses qui ont bouleversé cette université. Et on parle que la Renaissance en 1970 a tellement changé que ça a influencé beaucoup la culture de cette université jusqu'à aujourd'hui. Je vous donne juste une nouvelle parce que c'est clair qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, dès qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans cette université, les gens commençaient à texter à travers les médias sociaux. Et regardez, donc, ils disaient que le 15 février, donc c'est quelques jours après, quelques jours après que ça a commencé, le hashtag, pour les jeunes, ils connaissent ça, Asbury Revival, a enregistré plus de 24 millions de vues sur TikTok, qui sont passées à 63 millions le 18 février. Donc, on voit que ça a vraiment été répandu à travers le monde, à travers les médias sociaux. Donc, dans cette université, des fois, les réveils, on pourrait dire, le renouveau se passe pour quelques jours. Et donc, cette année, du 8 au 24 février, il y a eu quelque chose qui s'est réellement passé. Il y a eu un impact qui s'est répandu à travers l'université, mais aussi à travers les États-Unis, à travers les universités. Même des gens arrivaient en bus, en voiture pour aller à cette université. Il y a même, j'ai entendu même des gens de l'Europe qui ont pris l'avion ou dans d'autres pays pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Donc, regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé justement. Le 8 février, des étudiants du premier cycle étaient justement allés à ce service dans la chapelle avant de faire les cours. Et à la fin du service, la chorale a commencé à finir par un chant. Et à ce moment-là, les gens commençaient à partir, mais il y a un groupe d'étudiants qui sont restés. Ils sont restés simplement dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à chanter, à prier et tout ça. Vous savez, les jeunes, hein, ça se texte comme ça. Et là, ils ont commencé à dire, venez voir, il y a quelque chose qui se passe et comme ça. Donc, les gens quittaient les cours pour pouvoir aller justement dans l'amphithéâtre ou dans l'auditorium, dans la chapelle, pour vivre ce moment. Voici le témoignage d'un professeur donc d'Asbury, qui est un professeur de théologie, Austin Wolford, qui parle de ce qui s'est passé. Il dit, lorsque j'ai appris que ce qui se passait, j'ai immédiatement décidé de me rendre à la chapelle pour voir par moi-même. Quand je suis arrivé, j'ai vu des centaines d'étudiants qui chantaient paisiblement. Ils louaient et priaient sincèrement pour eux-mêmes, leurs voisins et notre monde, exprimant repentance, contrition pour le péché et intercédant pour la guérison, la plénitude, la paix et la justice. Certains lisaient et recitaient les Écritures, d'autres étaient debout, les bras levés. Plusieurs d'entre eux étaient regroupés en petits groupes qui priaient ensemble. Quelques-uns étaient agenouillés contre la clôture de l'autel de l'avant de l'auditorium. Certains étaient prostrés, tandis que d'autres parlaient entre eux, le visage rayonnant de joie. Beaucoup de gens, justement, racontent qu'ils ne se sont pas rendus compte du temps qu'ils sont restés. Tout le monde a été vu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel qui se passait dans ce lieu. À ce moment-là, l'université a commencé à dû s'organiser parce que les gens affluaient et les gens restaient des heures, des heures. Le 8 février, la rencontre a commencé le matin, a duré toute la journée et durant toute la nuit a continué. Et dans tous les jours suivants, ils ont continué sans cesse d'avoir du monde qui était là pour chanter, pour louer, pour prier, pour intercéder. Donc l'université a dû s'organiser pour pouvoir avoir des places pour boire du café, ben pour que les gens puissent reposer, parce que les gens ne voulaient pas quitter cet endroit. Donc justement, grâce aux médias sociaux, qui s'est rempli rapidement, on a pu voir qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont afflué. Tellement que le cinquième jour, l'université a dû ouvrir d'autres locaux dans l'université pour accueillir le nombre de personnes. On dit qu'à un moment donné, il y a eu jusqu'à 15 000 personnes qui sont venues à l'université par jour, des environs. En total, il y a eu plus de 50 à 70 000 visiteurs qui sont venus de plus de 200 institutions, d'universités, de collèges à travers les États-Unis pour venir vivre ce moment, dont principalement des jeunes de la génération Z. Prochain dia. Alors, que penser de tout cela? Est-ce que c'est vraiment un réveil ou est-ce que c'est peut-être quelque chose que l'université a essayé d'influencer? On parle de réveil ou on parle de renouveau lorsque justement ça réveille l'âme, ça réveille le cœur de la personne pour la repentance, pour une véritable adoration et un changement qui est concret dans la vie quotidienne. Et on va le voir à long terme, dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois, si réellement tout ce renouveau qu'ils ont vécu là-bas a eu vraiment un changement dans la part des personnes. Mais pour qu'il y ait un réveil, il faut que ça commence par les chrétiens. Ça commence par une repentance. Une repentance de cœur. Par la suite, elle va se propager vers l'extérieur, vers les non-chrétiens. Comme le professeur Austin va voir par rapport, il disait par rapport à tout ce qu'il vivait. Il dit, les réveils précédents ont toujours porté des fruits qui ont béni à la fois l'Église et la société. Pour exemple, même les historiens non-croyants reconnaissent que le second grand réveil a joué un rôle essentiel dans la fin de l'esclavage aux États-Unis. Ça, c'était au début du 19e siècle. Je suis impatient de voir les fruits que Dieu fera germer d'un tel réveil dans notre génération. Donc, le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau, principalement dans nos pays christianisés. Dans nos pays occidentaux, qui s'est refroidi avec le temps, où les gens ont perdu les valeurs de Dieu. Et les gens ont besoin, ont une soif de Dieu, ont besoin de retrouver réellement quelque chose de fort avec le Seigneur. Principalement la génération Z, c'est-à-dire la génération qui grandit, qui aujourd'hui commence à être dans l'adolescence, dans la jeunesse. Maintenant, on va voir le deuxième événement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, de ce film. Jesus Revolution, est-ce que vous l'avez entendu parler de ce film? Il faut que vous ayez aller voir un peu les infos chrétiennes, là. Je vais vous envoyer des liens. Il y a au moins deux ministères chrétiens qui informent justement le monde chrétien de tout ce qui se passe. Et puis, et donc, Info Chrétienne et aussi le Christianisme d'aujourd'hui. Ça vaut la peine pour aller voir qu'est-ce que le Seigneur fait pour qu'on puisse prier aussi pour ce qui se passe. Donc, ce film, qui est en ce moment dans le cinéma, même ici encore à Montréal, il est encore au cinéma, c'est l'histoire vraie d'un réveil qui s'est passé dans les années 60-70 en Californie, du temps de la jeunesse hippie. Hein? Bon, peut-être que pour beaucoup, ça ne veut pas dire grand-chose, hippie, là, mais rappelez-vous, hein, le Jesus Love et puis hein, les fleurs et tout ça, c'était dans ce temps-là. Donc, en 69, un pasteur qui était assez tranquille, mais respecté dans le sud de Californie, constate que son église est en train de mourir. Et il n'arrive pas à connecter les gens réellement avec la nouvelle génération de hippies. Et à un moment donné, sa fille emmène en voiture un autostoppeur qui se dit un évangéliste et qui voyage et qui parle aux gens de Jésus-Christ d'une façon nouvelle. Alors, il l'invite à l'église, puis le pasteur, au début, il est un peu méfiant parce que c'est un jeune, il a d'autres façons de faire. Mais petit à petit, il commence à être touché par le message, par la fraîcheur que ce jeune homme porte. Et à un moment donné, il y a un réveil qui se fait. À un moment donné, il y a des centaines et des centaines de jeunes qui arrivent dans cette église, tellement que cette église est bouleversée. Donc, c'est l'histoire un peu aussi de l'évangéliste Greg Laurie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, du pasteur Greg Laurie, comment il a touché aussi des milliers de personnes. À ce jour, on dit que ce film a eu des recettes de 32 millions de dollars. C'est quand même énorme pour un film chrétien. J'ai entendu par un ami, comme à l'université d'Asbury, que suite au visionnage, il y a, d'une façon spontanée, dans les lieux de cinéma, il y a eu des concerts de louanges. Les gens ont commencé à louer le nom du Seigneur, à chanter. Il y a eu même des baptêmes directement en dehors, sur la rue. Ils trouvaient une fontaine, ils baptisaient les gens directement ou le lendemain, tellement que les gens étaient touchés de voir ce que le Seigneur faisait. J'ai regardé un reportage cette semaine du réalisateur, comment il a sorti ce film. Et il dit qu'il voulait sortir ce film il y a déjà plus de 5 ans. Mais différentes circonstances, différents événements ont fait qu'il n'a pas réussi. Et c'est seulement en février 2022 que le film est sorti dans les cinémas. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est quelque chose que parce que bon, il y a eu des événements ou des problèmes? Moi, je ne crois pas. Je crois que Dieu est en train de changer quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose dans nos pays occidentaux, surtout en Amérique, pour pouvoir nous réveiller, pour pouvoir vivre un renouveau spirituel. Et Dieu utilise toutes sortes de choses, des universités, des films, il peut utiliser des églises, il peut utiliser des personnes. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous savez, le réveil spirituel, ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, ce n'est pas quelque chose qu'on peut bâtir. Oui, il y a des gens qui ont essayé de faire le réveil. Il y a des gens qui ont essayé de bouleverser un peu les églises, amener quelque chose de nouveau. Peut-être que ça a eu un effet, mais un véritable réveil où il y a la repentance, où il y a vraiment un désir profond d'aller chercher Dieu, c'est le Saint-Esprit qui le travaille. C'est le Saint-Esprit qui le regarde. Si vous lisez les différents réveils à travers les temps, vous allez voir que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille et qui permet que ces réveils puissent se propager à l'extérieur. Alors, allons voir justement dans l'Ancien Testament un réveil qui s'est passé dans le temps des rois, avec le roi Ézéchias. Alors, ouvrons notre Bible dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 11. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 1 à 11. Donc, il est dit verset 1, « Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abia, elle était la fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point comme l'avait fait David, son ancêtre. Au premier mois de la première année de son règne, il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit remettre en état. Il convoqua les prêtres et les lévites et les renait sur la place orientale. Il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant rendez-vous rituellement purs, puis purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites disparaître du sanctuaire tout ce qui est souillé. » Verset 6. « Car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce que l'Éternel, notre Dieu, considère comme mal. Ils l'ont abandonné, ils ont délaissé la demeure d'Éternel et lui ont tourné le dos. Nicole, il faut changer. Ils ont même fermé les portes du portique, ils ont éteint les lampes, ils ont cessé d'offrir au Dieu d'Israël les parfums des holocaustes dans le sanctuaire. Verset 8. Aussi l'Éternel s'est mis en colère contre Juda et Jérusalem et a fait de notre peuple un exemple terrifiant et un sujet de raillerie. De notre pays une étendue désolée, comme le constatez vous-même. Car nos pères sont tombés par l'épée, nos fils, nos filles et nos femmes ont été emmenés en captivité à cause de cela. Verset 10. C'est pourquoi j'ai décidé de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour qu'il détourne de nous son ardente colère. Verset 11. Maintenant, mes amis, ne vous dérobez pas, car c'est ce que l'Éternel a choisi pour vous tenir devant lui, à son service, pour célébrer son culte et brûler des parfums en son honneur. Alors regardons justement, qu'est-ce qui s'est passé du temps d'Ézéchias. Ézéchias était un des derniers rois de Juda avant la déportation vers Babylone. Donc il régna dans les ans 727 avant Jésus-Christ, pendant 29 ans comme on l'a lu. Ce roi était jeune, il avait juste 25 ans. Il voyait toutes les abominations du peuple durant le règne de son père. Mais tant qu'il était le prince, tant qu'il n'était pas roi, il ne pouvait rien changer. Mais Dieu le préparait dans son cœur pour la tâche qui lui était assignée. C'est intéressant de voir qu'à la différence d'autres rois, qui souvent, quand ils deviennent rois, ils doivent prendre du temps, des fois des années, pour consolider, parce qu'il y a des fois des ennemis qui veulent le tuer, comme ça. Lui, le premier mois de son première année, qu'est-ce qu'il fait? Il rouvre les portes de la maison éternelle. Il convoque les sacrificateurs et les lévites, il leur dit, maintenant là, on va remettre en ordre la maison de l'Éternel. Ézéchias ne pouvait pas attendre longtemps, trop longtemps, parce que l'abomination était là, que son père avait répandu dans Juda et Israël, et dans le temple. Ézéchias était prêt à le faire, mais il ne pouvait pas le faire tout seul. C'est pourquoi qu'il a justement convoqué tous les sacrificateurs, tous les responsables du sanctuaire, afin qu'eux aussi puissent se mettre aussi à l'ouvrage. On peut appeler ça un réveil. Le roi se lève, convoque les responsables spirituels du peuple, pour qu'eux-mêmes se purifient le temple, et ensuite que le peuple puisse adorer Dieu dans un lieu qui est saint, qui est débarrassé de toute souillure du passé. Alors regardons quelques constatations par rapport au réveil. La première, c'est qu'un réveil se passe toujours dans des situations terribles, dans des moments difficiles. Si vous lisez les différents réveils à travers la planète, vous allez voir que c'est toujours dans des moments difficiles, quand la situation va mal. Et aujourd'hui, on peut dire que la situation va assez mal. Et on parle de récession, on parle de bruit de guerre partout, on parle de pandémie encore, on parle de catastrophes naturelles, on voit toutes sortes de choses, on voit que le monde est bouleversé. La deuxième constatation, pour qu'un réveil commence, il faut que des chrétiens se mettent à genoux pour prier. Dans le cas d'Ézéchias, Dieu l'avait formé. Dès sa jeunesse, il a supplié Dieu d'un changement radical. Mais comme on l'a dit, il ne pouvait pas le faire tant qu'il était juste le prince, parce que son propre père était dans le péché. D'autres gens dans le peuple de Juda, je suis sûr, qui voyaient tout ce qui se passait, priaient pour qu'un roi se lève pour changer tout ceci. Aujourd'hui aussi, il faut qu'il y ait des chrétiens qui se lèvent pour prier, intercéder fidèlement devant Dieu, pour qu'un changement se fasse dans le cœur de leur prochain. J'ai entendu une fois une histoire d'une dame qui a prié plus de 20 ans pour un réveil dans son pays, avant de le voir s'accomplir. La troisième constatation, Dieu peut utiliser toutes sortes, n'importe quelle personne pour créer un réveil. On le voit dans l'histoire de l'Église, où plusieurs voix d'hommes ou de femmes se sont levées pour dénoncer l'impureté du peuple et annoncer la parole de Dieu. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est difficile peut-être que juste un seul homme seul est capable de produire un réveil. C'est comme si par exemple un seul homme irait dans les rues de Saint-Henri pour annoncer l'évangile, pour dire aux gens de se repentir. Sa tâche serait très difficile et il pourrait peut-être se décourager devant peut-être le peu d'intérêt des gens. Ézéchias l'avait compris. C'est pourquoi justement il convoque les responsables spirituels de la communauté. Il a besoin de faire passer ce message de repentance aux leaders, afin qu'eux-mêmes puissent influencer ensuite le peuple. La quatrième constatation, le peuple vient du peuple de Juda, ou dans d'autres réveils, vient des chrétiens. Aujourd'hui, justement, le réveil doit commencer dans le cœur de chaque chrétien. Les croyants se repentent de leurs mauvaises actions. Ils sont déjà en réveil, ce changement va se voir en eux. Et petit à petit, ils vont pouvoir aussi influencer par leur témoignage, par leur façon d'être, les gens autour d'eux. Alors, comme nous le voyons dans les différents réveils, le réveil commence toujours par le peuple de Dieu. Quand on regarde ce qui est passé à Asbury, ce sont des chrétiens peut-être, des enfants de chrétiens, des enfants de familles chrétiennes qui étaient là, qui allaient peut-être simplement, peut-être à chaque semaine dans un culte parce qu'il fallait le faire. Et là, ils ont été touchés par le Saint-Esprit. Et là, ils se sont repentis. Les convertis, les perdus, ceux de dehors, les non-chrétiens, vont se convertir par le Seigneur à travers les serviteurs qui seront fidèles, qui seront touchés, qui vivront le renouveau dans leur vie. Tous les comptes rendus des réveils d'autrefois se rejoignent dans leur évocation, justement, de croyants qui sont soudain convaincus de leur propre culpabilité, des chrétiens qui pleurent sur leurs péchés, des églises entières qui sont courbées sous l'action puissante du Saint-Esprit, jusqu'à ce que tous les membres aient confessé, des fois même publiquement, les fardeaux qui chargeaient leur conscience. Alors, on va revenir au texte de 2 Chroniques 29. Regardons verset 11. Il dit, « Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. » Donc, c'est quand? Maintenant. Qui? Vous, c'est-à-dire les responsables religieux, ou dans le sanctuaire. Cessez d'être négligents dans le sanctuaire. Vous avez reçu une tâche d'être les leaders spirituels, d'amener le peuple devant Dieu. Donc, soyez pas négligents. Maintenant, il faut rebâtir. Ensuite, il dit, vous avez été choisis. Choisis par qui? Par l'Éternel. En vertu de quoi? De sa seule grâce. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs. C'est parce que Dieu leur avait donné ses fonctions à eux. Pourquoi faire? Pour se tenir devant lui. Ils ont été choisis pour se tenir devant Dieu dans le temple, pour le contempler, pour l'adorer, pour inviter les gens à venir devant le Seigneur. Et il le dit ensuite pour le servir. Comment? En offrant des parfums. Avec qui? En rassemblant vos frères. Dans quelle perspective? Vous sanctifiez puis purifiez le temple. Donc dans ce verset, le roi va dire aux leaders spirituels, c'est le temps d'arrêter d'être négligent. C'est le temps parce que vous avez été choisis pour une tâche, pour me servir, pour servir le Seigneur. Pour ce changement qui soit vraiment de cœur, qui va changer la raison, qui va purifier les cœurs, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que ça vienne des gens qui ont reçu au départ aussi le Seigneur, qui ont reçu même des tâches spécifiques pour le servir, pour qu'ils puissent être réveillés, pour qu'ils puissent ensuite aussi encourager les autres dans ce renouveau. Donc aujourd'hui, Dieu dit à ses serviteurs, aux pasteurs, aux responsables, de cesser de négliger le mandat que Dieu leur a confié, qu'ils se purifient, qu'ils se mettent en action pour purifier le peuple. Et lorsqu'il arrive un réveil, il est accompagné par des fruits, c'est-à-dire un impact, par des choses, des signes concrets. Dans le cas d'Ézéchias, le temple a été nettoyé en 16 jours. Imaginez, un immense bâtiment qui a été abandonné pendant des années, où ils avaient même adoré d'autres dieux. Ils l'ont nettoyé, ils l'ont purifié en 16 jours, tellement qu'ils avaient besoin, ils avaient envie de revenir vers le Seigneur. Ils étaient tellement enthousiastes de changer de comportement. Lorsqu'ils voyaient le leadership du roi qui les pressait, qui les encourageait à revenir à l'Éternel, ils ont été eux-mêmes encouragés à dire « il faut qu'on se mette ensemble pour nettoyer et purifier le temple ». Dans la suite de l'histoire de ce roi, qui bouleversa ensuite tout le peuple, son désir de sainteté envers Dieu a été très fort. Il a voulu rétablir le culte offert à Dieu dans le temple. Regardez ce qu'il fait Ézéchias dans les prochains versets. Il envoie des messagers dans tout Juda, dans tout Israël, pour rassembler le peuple entier, pour qu'ils montent à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et ce n'était pas la bonne période. La Pâque juive se célébrait généralement le premier mois de l'année qui correspond à notre date à peu près au mars-avril. Eux, ils vont le célébrer au second mois. Regardez qu'est-ce qu'il est dit dans 2 Chroniques chapitre 30 verset 1. Ézéchiel envoya des messagers dans bien tout Israël et Juda. Il écrivit même des lettres à Éphraïm et Manassé pour les inviter à venir au temple de l'Éternel à Jérusalem afin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, je ne veux pas simplement purifier le temple et inviter les sacrificateurs à venir. Je veux inviter tout le peuple à venir, à prendre le temps, à monter à Jérusalem pour qu'ils puissent adorer, pour qu'ils puissent revenir d'un cœur sincère vers le Seigneur. Donc on voit justement, 2 Chroniques chapitre 30 verset 13, un peuple nombreux afflua donc à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain. Au second mois, ils formèrent une immense assemblée. Comme on a dit, ce n'était pas le temps de la Pâque. C'est comme si nous, on fêterait Noël ou Pâques, peut-être au plein de mois de juillet. Les gens diraient, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes sortis un peu de vos horizons. Mais eux, Ézéchias a dit, non, c'est tellement important, je ne veux pas attendre une année de plus. Je veux les convoquer maintenant. Les sacrificateurs se sont ressaisis, se sont sanctifiés pour servir leur Seigneur dans sa maison. Et on voit que certains n'ont pas été encore complètement. Parce que dans un réveil, il y a toujours ceux qui sont un peu en arrière, qui regardent en arrière, qui disent, oh, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Je ne suis pas sûr de revenir à Dieu et comme ça. Et même dans les églises, il y a toujours des personnes qui ne sont pas sûres. Chaque fois qu'il arrive quelque chose de spécial dans l'église, en renouveau, ils disent, ah ouais, ça c'est peut-être des affaires d'hommes, ça c'est le pasteur qui essaye d'influencer, etc. Et dans les sacrificateurs, c'est la même chose. Tellement qu'ils n'étaient pas prêts pour sacrifier avec le nombre de personnes, le nombre de sacrifices qu'ils devaient faire, ils n'étaient pas capables de sanctifier le peuple. Il a fallu que ce soit les lévites, c'est-à-dire ceux qui étaient là pour charger, pour aider, mais ce n'était pas leur tâche de le faire pour qu'ils puissent les aider. Regardez au verset 18, 2 Chroniques 30, verset 18. Beaucoup de gens, en effet, et surtout parmi ceux qui étaient d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar, de Zabulon, n'avaient pas accompli le rite de purification. Il y avait tout un rituel pendant plusieurs jours. Mais ils mangèrent quand même l'agneau de la Pâque, contrairement à ce qui était écrit. C'est pourquoi Ézéchiel pria pour eux en ces termes, « Éternel, toi qui es bon, veuille pardonner. » Les lois de Dieu étaient claires, qu'il y avait un temps de purification, et ceux qui respectaient pas cela et qui mangeaient la Pâque pouvaient être sanctionnés, pouvaient être rejetés du peuple. Même Dieu pouvait les faire aussi anéantir sur le champ. Mais à cause que le peuple était tellement repentant, à cause de ce désir de repentance, de désir de venir vers le Seigneur, Ézéchias dit, Seigneur, pardonne-leur, pardonne-leur. Et si vous regardez dans les versets suivants, vous voyez que Dieu a dit, je vais les pardonner parce que je vois leur cœur. Donc Dieu n'est pas quelqu'un qui est très conforme dans le sens, ok, il y a des règles, puis si on sort des règles là, où ça va mal marcher. Voilà pourquoi que Dieu utilise toutes sortes de réveils, toutes sortes de situations, toutes sortes de personnes même qui sortent un peu de nos façons de voir pour toucher les gens. Le Seigneur ne tient pas à rigueur des fautes qu'ils ont commises ou des erreurs qu'on a pu faire. Quand il nous voit qu'on a un cœur sincère de repentance, qu'on a un cœur sincère d'aller le chercher, Dieu pardonne, Dieu restaure. Et pour terminer justement, regardons qu'est-ce qui se passe. L'Assemblée est tellement réjouie dans la présence de Dieu qu'ils décident de prolonger la fête pendant 7 jours supplémentaires. Ils étaient tellement contents d'être ensemble, ils ont dit, on va en faire encore 7 jours de plus. Asbury, c'est ça qui s'est passé. L'université aurait pu dire, non, mais écoutez, là, il faut que les gens retournent au cours. Mais l'université a dit simplement, ben, ceux qui veulent aller dans la présence de Dieu, à la chapelle, allez-y. Il y a des gens qui allaient, puis il y a des gens qui revenaient à un moment donné au cours, puis ils repartaient. Ça durait un jour, deux jours, jusque pendant plus de deux, trois semaines. 2 Chroniques 30, verset 26. 2 Chroniques 30, verset 26 dit, une grande joie régnait dans toute la ville de Jérusalem. Depuis l'époque de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable ne s'était produit dans la ville. Imaginez, il y a eu des dizaines d'autres rois avant Ézéchias. Mais il est écrit depuis David, depuis l'époque de Salomon, où il y a eu justement la construction du temple, où il y a eu que le temple a été inauguré. Rien de tel n'avait été vécu. À long terme, quelles sont les conséquences d'un réveil? On peut le voir dans deux situations vraiment spécifiques. La première, il y a une opposition qui est farouche de Satan, qui fait tout pour contrecarrer les offensives du royaume de Dieu. Si vous lisez, je vous encourage à lire les chapitres 29, 30 et 31 de Chroniques durant cette semaine. Vous allez voir que, quelque temps plus tard, un des rois de la contrée a voulu envahir Jérusalem. Et vous allez voir comment que Jérusalem a été délivrée par la main puissante. Lorsque le réveil vient, l'ennemi n'est pas content. Et l'ennemi va faire toutes sortes de façons pour stopper, pour arrêter, pour enlever cette passion, cette soif des gens. Je parlais avec des pasteurs cette semaine et ils me disent qu'ils n'ont jamais vécu autant d'attaques de l'ennemi que depuis quelque temps. Je crois que chacun de nous, on le voit. On le voit même dans nos propres églises. Combien de personnes qui sont attaquées dans leur santé physique, dans leur santé mentale, dans leur santé spirituelle. L'ennemi sait qu'il reste peu de temps. L'ennemi est en train de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir. Et il veut que ça s'arrête. Il veut refroidir les cœurs des chrétiens. La deuxième chose qu'on voit, on voit des œuvres qui portent la marque de l'approbation du Seigneur, dont les fruits sont durables. On voit justement des fruits qui sont durables. On voit des gens, des cœurs qui sont changés, qui sont transformés. Regardez ce qui s'est passé justement avec Ézéchias. Le chapitre 31, verset 1, nous dit « Lorsque toute la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient là partirent pour la ville de Juda et brisèrent les stèles des idoles, abattirent les pieux sacrés d'Achéra et démolirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans les territoires d'Éphraïm et des Manassé, jusqu'à n'en reste plus. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. » Lorsque justement ces personnes ont été touchées, ils sont retournés, ils ne sont pas simplement retournés chez eux et ont continué la vie comme avant, non! Ils sont été dans les lieux où il y avait des sacrifices de d'autres idoles, de d'autres dieux. Ils ont commencé à saccager tout cela, à briser, parce qu'ils ont dit « Maintenant, on veut revenir d'une façon nouvelle vers Dieu et on veut enlever tout ce qui nous empêche, tout ce qui est des signes d'idolâtrie. » Voilà le signe, voilà les œuvres, voilà les fruits d'un changement radical des gens lorsqu'ils vivent un renouveau spirituel. Ça a eu un impact, si vous lisez dans les versets suivants, comme dans les versets 7, que les gens ont commencé à donner leurs dîmes, les offrandes de bétail, de nourriture. Tellement important que le roi a dû construire des nouveaux entrepôts. Il y en avait tellement, même qu'ils en distribuaient à gauche, à droite. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Lorsque les gens sont touchés, Dieu fait de grandes choses, même du côté des finances. Alors pour nous, pour Saint-Henri, est-ce qu'on peut espérer un réveil? Est-ce qu'on peut espérer un renouveau spirituel? Plusieurs fois, je vous ai dit que c'est vrai que l'année 2022 était une année difficile. L'après-pandémie, il y a eu un peu un essoufflement, un certain découragement de beaucoup de personnes, certaines personnes qu'on n'a pas revues forcément à l'église. Mais je ressens, et je le vis moi-même, comme vous avez pu le voir, depuis quelques mois, je suis en mentorat de renouvellement de l'Église, renouvellement de l'Esprit, et Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau aussi, à travers l'écoute, à travers l'obéissance. Et je sens aussi dans l'Église aussi qu'il y a des gens qui vivent quelque chose. J'aimerais vous encourager de dire, Seigneur, on veut goûter à quelque chose avec toi. On ne veut pas vivre une vie simplement de routine. On ne veut pas vivre simplement quelque chose, dire, ben voilà, on vient au culte, on vient aux célébrations, on passe un bon temps ensemble, on s'encourage les uns les autres, puis on retourne chez nous, puis on vit nos problèmes, comme tous les jours. Non, on veut vivre quelque chose de différent. On veut que nos voisins, on veut que les autres membres de notre église, on veut que les autres membres de nos familles, qui peut-être sont refroidis dans le Seigneur, puissent aussi vivre quelque chose. Et on veut leur partager. Des fois, on n'a pas besoin forcément juste de leur dire, ils vont le voir dans nos agissements, dans nos paroles. Certains vont peut-être un peu être méfiants et certains vont dire, oh, ouais, c'est juste passager, c'est juste, ils sont un peu flyés, comme on pourrait dire. Non, Dieu est en train de faire quelque chose. Et je crois que ça doit commencer par la prière. Et je vous encourage, je sais que depuis plus de 3 ans, on a un groupe de prière qui se réunit plusieurs fois par semaine pour prier. Je sais que ce n'est pas évident de venir, mais je vous encourage. Je sais, comme Pasteur Eman l'a dit, qu'il y a un groupe qui est fidèle. Je remercie toutes ces personnes qui, fidèlement, semaine après semaine, continuent à prier d'intercéder pour les différents besoins, pour le renouveau aussi à l'Église. Mais je vous encourage, si vous avez une fois l'occasion, à midi, de midi à 1 heure, prenez une pause, puis venez vous rejoindre dans la prière. Intercéder, Seigneur, moi je veux aussi vivre ce renouveau. Moi je veux prier pour mes frères et sœurs, pour qu'ils puissent aussi être changés, transformés. À chaque mois, justement, nous avons aussi, comme on l'appelait maintenant la soirée, impact, une prière. On veut que ce temps soit un temps, pas simplement juste de prière pour une activité de plus, mais on veut vraiment que cette soirée-là, on puisse vivre quelque chose de nouveau. Et il y a des gens qui me disent comment qu'ils vivent quelque chose de merveilleux à travers ces temps. Alors je vous encourage, ça va être le vendredi 24, à prendre le temps. Je sais que des fois, c'est pas facile avec la famille, les événements, le travail. Mais si vous voulez vivre quelque chose avec le Seigneur, il faut prendre le temps avec lui. Il faut prendre, comme on a dit, le temps de l'écouter. Il faut prendre le temps de l'écouter, de lui parler à Dieu. Et ensuite d'être touché et d'obéir. Alors simplement courbons notre tête. Et réalisons que le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que nous allons embarquer dans ce chemin? Est-ce que nous allons embarquer dans cette voie? Ou bien simplement on va regarder ça de côté et dire, moi, c'est pas pour moi. Ma vie me satisfait très bien, je vis ma vie tranquille, je vis des belles choses avec le Seigneur, c'est suffisant. Ou est-ce que vous voulez dire, non Seigneur, je veux une touche spéciale encore, je veux quelque chose de plus de toi. Dieu peut utiliser chacun de vous pour amener un réveil de votre propre âme, de votre propre personne, mais aussi les autres personnes autour de vous. Laissons Dieu agir, laissons le Saint-Esprit nous guider. Prions, intercédons pour que ce renouveau se fasse en nous premièrement, qu'on puisse confesser nos péchés, qu'on puisse réaliser qu'on a besoin de lui encore plus, qu'on a besoin de ne pas nous satisfaire de ce qu'on a, mais d'aller chercher encore plus de la présence de lui, d'encore plus de son onction en nous. Seigneur, on te remercie ce matin pour ce que tu veux nous dire encore. Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi. Tu as un plan, Seigneur, pour ce monde. Nous savons que tu vas revenir bientôt. Et tu as dit qu'avant de revenir, que tu allais encore visiter ton peuple. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix pour réaliser quand c'est le temps. Quand c'est le moment d'être changé, d'être transformé par toi. Aide-nous à ne pas attendre que les autres le fassent pour que nous on embarque. Aide-nous à le faire maintenant aussi, Seigneur. On veut, Seigneur, comme ce roi Ézéchias, dès le premier mois de son règne, d'ouvrir les portes du temple pour qu'elles puissent être rebâties, reconstruites, pour que le temple puisse être purifié. Seigneur, nous voulons dès maintenant, devant toi maintenant, te dire, oui, purifie mon cœur. Fais une œuvre nouvelle dans mon cœur. Change mon esprit. Permets que je puisse avoir quelque chose de nouveau avec toi. Permets que je puisse avoir une nouvelle soif, une nouvelle passion pour toi. Seigneur, je te remercie parce que tu utilises toutes sortes de façons. Je te remercie pour ce que tu as pu faire dans cette université à Asbury. Je te prie, Seigneur, pour tous ces jeunes, pour toutes ces personnes qui ont été là-bas, qui ont vu par Internet toutes ces célébrations, qui ont été touchées, Seigneur. Je te prie que, Seigneur, ce ne soit pas juste un éphémère, ce ne soit pas juste quelques petits moments de saisissement qu'ils ont vécu, d'émotion, mais que ce soit un changement radical dans leur vie, qu'ils puissent avoir un impact auprès, Seigneur, de leurs amis, auprès de leur famille, auprès, Seigneur, de leurs concitoyens. Je te prie que, Seigneur, on puisse voir dans ces prochains temps, entendre des témoignages, comment que, Seigneur, tu bénis, comment que, Seigneur, tu agis à travers ces jeunes, à travers ces personnes. Je voudrais te remercier, Seigneur, aussi pour ce film Jésus Révolution, Seigneur, qui montre comment que, Seigneur, tu as agi dans les autres années, mais comment que, Seigneur, tu l'as placé à ce moment-là pour pouvoir toucher encore les gens. Je te prie que, Seigneur, chaque personne qui voit ce film puisse, Seigneur, saisir que même si c'est un événement qui s'est passé il y a des années, tu es capable de les réveiller, tu es capable. On a entendu, Seigneur, des témoignages. Seigneur, va chercher ces personnes encore. Seigneur, permets que ces personnes puissent vraiment vivre quelque chose de nouveau en toi. Qu'ils puissent, Seigneur, confesser leurs péchés. Qu'ils puissent, Seigneur, revenir à tes pieds et reconnaître que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur. Nous te prions, Seigneur, aussi pour nos églises. Nous te prions, Seigneur, pour chaque membre de notre église. Afin que, Seigneur, là où ils sont, que ce soit ici en présentiel, que ce soit, Seigneur, à la maison, par YouTube, par Zoom, que ce soit ceux qui sont dans le travail, ceux qui sont peut-être dans d'autres occupations, Seigneur, touche-les maintenant. Montre-leur qu'ils ont besoin aussi de venir d'une façon nouvelle devant toi, qu'ils ont besoin de se repentir, de se mettre à genoux, afin de, Seigneur, de reconnaître que tu es le seul Seigneur et qu'ils puissent être touchés pour avancer. Nous voulons, Seigneur, avoir une touche de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, juste être saisis d'une émotion nouvelle ou comme ça. Nous ne voulons pas faire des choses nouvelles par nous-mêmes. Nous voulons que ce soit toi qui dirige. Nous voulons que ce soit toi qui dirige nos vies. Que ce soit toi qui dirige l'Église, afin que nos peuples, afin que nos concitoyens, afin que Saint-Henri, Montréal, puisse vraiment vivre quelque chose de nouveau. Nous croyons, Seigneur, tu veux toucher Saint-Henri, tu veux toucher Montréal, tu veux toucher le Québec, qui est dans un temps qui est difficile, qui est morose. Seigneur, tu es dans ces temps-là, tu agis. Et on veut te laisser agir, et on veut te prier, on veut continuer d'intercéder, afin que ta grâce, afin que, Seigneur, ta puissance, ton esprit se manifeste d'une façon nouvelle sur nous, sur ton Église, sur ces quartiers, sur Montréal, sur le Québec, sur le monde entier, Seigneur Jésus. Alors merci. Merci pour ces exemples de réveil, de renouveau. Permets que ça puisse, Seigneur, nous aider à grandir avec toi, à nous réveiller, à vivre une nouvelle façon pour toi. Et Seigneur, on s'attend à toi, Seigneur, que tu vas faire de grandes choses. Merci, Seigneur Jésus. Amen.